franceinter.fr.
Revue de presse de Frédéric Pommier.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre. Bonjour. Et bonjour à tous. C'est un sentiment qu'on connaît tous ou presque à peine terminé le déjeuner. Une petite boule au ventre, un début de mal de tête, voire des bouffées de stress et une appréhension diffuse qui progresse en même temps que progresse implacablement la journée. On se dit qu'on n'a rien fait, qu'on n'est pas assez reposé, qu'on ne s'est même pas détendu et que demain il faudra déjà retourner au boulot. Ce malaise porte un nom. C'est le blues du dimanche soir. Mais n'ayez crainte, ça se soigne, nous explique Elodie Sherman dans Le Parisien. Mais alors, ça se soigne comment? C'est le docteur Florian Ferreri qui répond. Il publie ce lundi un livre consacré au sujet et liste 3 conseils afin de chasser la déprime dominicale. Tout d'abord, garder le rythme, éviter de trop se décaler, proscrire donc la grasse matinée. Ensuite, éviter de s'infliger des corvées passées 17 heures. Tenter plutôt de se détendre, de voir des amis, de s'amuser. Enfin, troisième conseil, essayer la relaxation. Mais bon, j'imagine que certains ont d'autres remèdes efficaces. La tisane, la vodka ou le chocolat chaud ou encore le chocolat vodka. 10 centilitres de chocolat, 2 cuillères à soupe de vodka. Il paraît que ça fonctionne très bien quand on veut faire passer ce fameux blues du dimanche soir. Mais à la lecture des journaux, on peut être également saisi par le blues du dimanche matin, Patricia. Blues, notamment, à la lecture du reportage de Cyril Ben-Simon dans Le Monde, la longue liste des disparus de Libreville.
Oui, depuis les résultats de la présidentielle au Gabon, de nombreuses familles n'ont plus de nouvelles de leurs proches.
Un fils, un frère ou un neveu. Souvent des partisans de Jean Ping, le leader de l'opposition, des adversaires d'Ali Bongo donc. Ali Bongo, dont la victoire continue d'être contestée, la capitale du Gabon bruisse d'inquiétantes rumeurs sur l'existence d'un charnier, l'existence d'escadrons de la mort, 47 disparus. Depuis la nuit d'émeute du 31 août, 41 blessés par balle et 27 morts identifiés selon le recensement établi par l'opposition. Et mon confrère, de décrire une ville qui vit dans une ambiance proche de l'état de siège, des barrages militaires dans le centre de Libreville et des véhicules blindés dans les quartiers populaires. Le journal du dimanche livre en outre une information qui alourdit la suspicion d'un trucage des résultats. Watergate au Gabon, Ali Bongo espionnait les émissaires de l'Europe. Les services secrets du président réélu ont en effet mis sur écoute les observateurs dépêchés par l'Union pour veiller à la régularité du scrutin. L'hebdomadaire a eu accès à une vingtaine d'enregistrements clandestins, des observateurs écoutés, des observateurs espionnés et un pouvoir qui a tout fait pour les empêcher d'observer ce qu'ils étaient venus observer. Blues également à la lecture du témoignage recueilli par Libération ce week-end.
Témoignage d'une jeune secouriste syrienne qui décrit l'horreur des bombardements continus de la ville d'Alep.
L'horreur et parfois le soulagement au milieu de l'horreur. La jeune femme raconte ce nourrisson qu'elle a récupéré dans les décombres d'une maison bombardée. Elle a un mois à peine et on a mis 2 heures pour l'extirper. On entendait ses pleurs et on a réussi pierre à pierre à dégager son petit corps. Dès que je l'ai vu, je l'ai attrapé, je l'ai serré dans mes bras tout en lui disant « Ne pleure pas ma petite ». Alors que je pleurais plus qu'elle sur son visage recouvert de poussière, mais elle était indemne, pas la moindre blessure, c'est miraculeux. Des petits miracles, c'est également ce que donnent à voir les formidables photos publiées sur le site Making Of, le blog des journalistes de l'agence AFP. Des fillettes qui mangent une glace, des garçons sur une balançoire, une enfant souriant dans un manège construit avec les restes de projectiles non explosés, des images qui sont comme les angles cachés de la guerre, des étincelles d'espoir, car ces photos ont donc été prises en Syrie, photos de moments presque ordinaires qui, l'espace d'un instant, font oublier la mort qui rôde tout autour. Et ceux qui les ont prises expliquent que ce sont bien ces photos-là qu'ils préfèrent, plus que les clichés terrifiants de cadavres au milieu des gravats. Blues lorsque l'on songe au Gabon, blues quand on songe à la Syrie. Hier, le principal hôpital d'Alep a encore été bombardé. Dès lors, pour retrouver le moral, si l'on n'apprécie ni la relaxation, ni le chocolat vodka, on peut se plonger dans la campagne politique du moment.
Je serai présent au second tour de la présidentielle.
Ah bon? Qui s'exprime ainsi?
J'ai dit présent,
ce matin,
j'ai pas dit présent.
Dans les colonnes du JDD. Le Pen, Sarkozy, Mélenchon, Hollande, Montebourg, Fillon, Duflot, non! Aucun de ceux-là, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui promet d'être La surprise de la prochaine élection, lors de la précédente, il avait pourtant recueilli moins de 2% des voix. Mais aujourd'hui, le président de Debout la France assure sans rire qu'il sent que ça démarre pour lui et que son mouvement est en train de passer d'une très petite entreprise à une grosse PME. Et il ajoute, toujours sans rire, que deux candidats bouleversent actuellement le jeu politique, c'est Macron et moi. Là, on ne peut s'empêcher de penser au célèbre psychologue Émile Coué, 10 centilitres de méthode Coué et 2 cuillères à soupe de rêve éveillé. Mais le souverainiste rappelle que quand Donald Trump a dit qu'il gagnerait la primaire républicaine, personne ne l'a cru sur ce point-là. Il a raison. Puis, à l'instar d'Alain Delon, il se met à parler de lui comme s'il parlait d'un autre. Si je dis aujourd'hui que Dupont-Aignan sera au second tour, personne ne va me croire. Une nouvelle fois, il a raison. Et pourtant, j'y serai, lance-t-il, avant de tempérer quelque peu son propos. Je ferai tout pour y être. Y être ou ne pas y être, telle est bien la question qui agite ces temps-ci. Les leaders de la gauche comme de la droite. À gauche, c'est ce dimanche que le PS définira les conditions de sa primaire des 22 et 29 janvier. Modalité de parrainage, nombre de bureaux de vote, dotation financière accordée aux candidats. Et ce soir, Arnaud Montebourg, aux 20h de TF1, dira s'il se présente ou non dans le cadre de cette primaire. À droite, les candidats, on les connaît déjà, et c'est la photo de celui que les sondages présentent comme le favori, qu'on retrouve à la une du journal du dimanche ce matin. Une longue interview sous ce titre, censé tout résumer, Juppé se lâche. Sur la photo, il est souriant. Ça mérite d'être souligné, et c'est avant tout sur ses principaux adversaires qu'il se lâche. Ceux de l'autre bord, pour commencer, c'est ainsi que de François Hollande. Il déclare qu'il a donné le spectacle de l'impréparation et de l'improvisation permanente. Lui, à l'inverse, s'il est élu, promet de rester cohérent tout au long de son quinquennat. Il exclut du reste de travailler avec Emmanuel Macron, qu'il juge ni loyal ni compétent. Le bilan de son passage à Bercy, les autocars, point barre. Dès lors, qui pourrait-il nommer à Matignon? Réponse d'Alain Juppé, il y a une bonne dizaine de premiers ministres possibles, et pourquoi pas une femme? Mais il refuse toutefois de citer le moindre nom, riant même quand les journalistes lui proposent celui de Valérie Pécresse, et à l'évocation du nom de Bruno Le Maire, là encore, Juppé botte en touche. Aujourd'hui, Bruno est candidat à la primaire.
Et c'est avec deux autres rivaux de cette primaire qu'il se fait le plus virulent.
François Fillon l'a accusé de servir de la tisane. Réplique ironique de Juppé, je ne crois pas que la stratégie de François Fillon soit particulièrement couronnée de succès pour l'instant. Le même Fillon a proposé de supprimer 600 000 emplois de fonctionnaires en 5 ans. Réplique laconique de Juppé, il faut des mesures fortes, oui, mais réalistes, et dit-il, avec tous ces chocs que proposent les uns et les autres. Chocs fiscaux, chocs sociaux, chocs de compétitivité ou bien de simplification. Le badaud France risque de se lézarder rapidement. Juppé, lui, ne parle pas de choc, mais il propose toutefois des mesures parfaitement de droite. La baisse des impôts, le retour aux 39 heures ou encore la limitation des mandats syndicaux. Il entend par ailleurs nommer des ministres pour 5 ans, des projets auxquels, dit-il, ses équipes travaillent. Déjà projet que Gilles Boyer, son directeur de campagne, explique en reprenant la critique de Fillon. Ce n'est pas de la tisane, non, mais de la vodka tisane, dit-il. 10 centimètres de vodka, 2 cuillères à soupe de tisane pour un breuvage dont la note gustative se veut à la fois corsée et sucrée. Mais de cet entretien, ce qu'on retiendra surtout, c'est la décontraction qu'affiche Alain Juppé. Il se réjouit de l'effet de son tweet sur la nullité du débat sur les Gaulois lancé par Nicolas Sarkozy. Un message retweeté 1300 fois, sourit-il, avant de retirer crânement de son poignet sa montre en plastique noir. $50, lance-t-il. Ajoutant malicieux, j'ai raté ma vie car à mon âge, je n'ai toujours pas de Rolex. Nouvelle pique à l'adresse de Nicolas Sarkozy, qui hier soir encore en meeting au Sable d'Olonne s'est érigé en pourfendeur de ce qu'il appelle la pensée molle, et il a accusé Alain Juppé de proposer une alternance molle pour avoir invité tous les déçus du hollandisme à voter pour lui à la primaire de novembre cette semaine. L'ancien président de la République avait même précisé « Quand on cherche à se faire réélire par les voies de gauche, on se prépare à mener une politique qui donnera des gages à la gauche », réplique d'Alain Juppé dans l'interview du JDD. Quand on cherche à se faire élire par les voies du Front National, on risque de mener une politique inspirée par les thèses du Front National. Retour à l'envoyeur. C'est donc la méthode tisane-vodka. Mais pour le blues de ce soir, je vous conseille simplement le chocolat.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.